السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toutes les louanges vont à Allah, le Seigneur des univers. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad, alayhi salatu wa salam, est le messager d'Allah. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, nous allons parler aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, Inch'Allah, de l'épisode le plus triste dans l'histoire du monde. Il s'agit du départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du départ du bien-aimé vers Allah, le compagnon suprême. Et la phrase « ila rafiq al-a'la » que nous allons traduire par « vers le compagnon suprême ». Cette phrase a été prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son lit de mort, dans les agonies de la mort, dans ses derniers instants, juste avant sa mort. Puis il mourut comme tous les hommes meurent, et il quitta la vie d'ici-bas comme tous les hommes la quittent. Car en effet, il était un homme comme nous tous, comme tous les hommes. Alors il mourut comme tous les autres hommes meurent, et dans les agonies de la mort, il leva le doigt vers le ciel et il dit « Il al-Rafiq il-A'la » c'est-à-dire « Je vais vers Allah, le compagnon suprême ». Quelques mois avant sa mort, mes frères, le prophète alayhi salatu wassalam accomplit le pèlerinage. Il se tient debout à Arafat avec son habit de pèlerin, la tête découverte, ébouriffée, plein de poussière. Il s'adresse aux 100 000 et quelques croyants qui sont venus faire le pèlerinage avec lui. Et il dit « Ô homme, vous êtes garant de moi et je suis garant de vous. Qu'allez-vous donc dire à Allah le Très-Haut demain ?» La foule, tous les hommes, tous les croyants, répondirent tous d'une même voix. « Nous sommes témoins que tu as transmis le message, que tu as pris soin du dépôt, al-amana, qui t'a été confié et que tu as conseillé la communauté. » Alors, il pointa son doigt vers le ciel et il dit « Ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin. » Allah le Très-Haut révéla plus tard les versets suivants du Saint-Coran. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Lorsqu'il revient à Médine, il sentit que sa fin était proche. Ce fut alors le début du sentiment de la solitude, de la séparation, de l'annonce d'un adieu très proche. Il se tient debout sur le mimbar, sur la chair, et il lut les paroles du Très-Haut qui viennent de lui être révélées, de la Sourate al-Nasr. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore donc son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. À ce moment-là, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu se met à pleurer. Et les gens se demandent pourquoi. Il répondit que la révélation qui venait d'être faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait tout simplement sa mort prochaine. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva au milieu de la nuit. Alors que tout le monde dormait, il se leva dans la nuit et partit pour Uhud. Il partit visiter les tombes des martyrs tombés 8 ans plus tôt. Là reposaient Hamza et Mus'ab, radiyallahu anhum. Là reposaient les 70 martyrs de la bataille de Uhud. Il les salua et leur annonça leur retrouvaille prochaine avec lui. Il retourna ensuite chez lui et s'endormit. Quelques jours plus tard, il prit la direction du cimetière du Baqi', le cimetière principal de Médine, le cimetière où sont enterrés la plupart des Sahaba. Il salua les habitants du cimetière. Et lors du mois de Ramadan, le mois qui allait être son dernier Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam se fit réviser le Coran par deux fois par l'ange Gabriel, par l'ange Jibril, alors que les années précédentes, il ne révisait que le Coran qu'une seule fois. La maladie du prophète alayhi salatu wassalam débuta avec un mal de tête. Il entra un jour chez Aïcha radiyallahu anha. En le voyant, Aïcha se plaint à lui et elle lui dit qu'elle a très mal à la tête. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond que lui aussi souffre lui-même d'une terrible migraine. Néanmoins, et pour la réconforter et pour lui témoigner son amour pour elle, il rajoute: ne t'inquiète pas, si tu meurs avant moi, je m'occuperai de toi, te donnerai le bain, te placerai dans ton linceul, puis je prierai sur toi et je t'enterrerai. Son mal de tête commença un jeudi. Et son mal de tête dura 13 longues journées. Et à propos du jeudi, lorsque le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhu évoquait le jeudi, il pleurait à chaudes larmes, car cela lui rappelait la tristesse et l'angoisse du début de la maladie du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc resté sallallahu alayhi wa sallam allongé 13 jours. Et lorsqu'une fois il entendit l'appel à la prière, al-adhan, il demanda à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il serait alors un peu soulagé de la douleur de la fièvre, mais son corps était dans une chaleur très très forte, à un tel point que lorsque le compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu posa sa main sur lui, posa sa main sur le noble corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô messager d'Allah, tu es brûlant, tu souffres d'une maladie qui a l'air très très grave. Le prophète lui répondit: oui, je souffre deux fois plus que l'un d'entre vous s'il était à ma place. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui répond: ainsi tu seras récompensé deux fois plus que nous. Et le prophète répondit que, en effet, lorsque un être humain est touché par une maladie ou une difficulté ou une tristesse, Allah efface par cela ses péchés. Ils l'aidèrent à se lever une première fois. Puis lorsqu'il se leva pour sortir à la mosquée, il perdit connaissance et tomba à terre. On lui représente de l'eau, il se lave à nouveau, puis retombe à terre deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. Il se résigne enfin à la volonté d'Allah. Alors que ses larmes coulent abondamment sur ses joues, il demande à Abu Bakr de diriger la prière. Alors, on demande à Abu Bakr de diriger la prière, ce qu'il fit en pleurant abondamment. La maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrave. Jusqu'à ce jour, mes frères, sur lequel la majorité des savants musulmans s'accordent pour dire que ce fut le dernier jour qu'il vit l'ensemble des sahaba en public, sa dernière apparition publique avec l'ensemble des compagnons. Il demande à Ali et à l'Abbas radiyallahu anhuma de le porter jusqu'à la mosquée pour qu'il s'adresse aux gens. Il s'appuie sur eux, la tête serrée dans un bandage, et il s'assied sur le mimbar face aux musulmans. Il le regarde et il les regarde. Les gens pleurent en le voyant. Il lève son noble corps, se tient debout, appuyé sur le bois de la chaire, et il dit: ô homme, quiconque à qui j'ai fait du tort, quiconque que j'ai offensé, insulté ou blessé, qu'il se déclare. Si j'ai pris de l'argent à l'un d'entre vous, qu'il prenne de mon argent. Si j'ai blessé le corps de l'un d'entre vous, voici mon corps pour qu'il se venge. Faites-vous justice aujourd'hui, avant que n'arrive le jour où l'argent et les biens ne seront d'aucune utilité. Il était en train, mes frères, de demander au peuple de réparer toute injustice qu'il aurait pu commettre, afin de mourir libéré de toute mauvaise action. Tous les assistants pleurèrent et versèrent des larmes et s'écrièrent: prophète d'Allah, tous les torts que tu aurais envers nous sont effacés, c'est nous qui sommes tes débiteurs. Néanmoins, un homme nommé Ukasha se leva dans la foule et dit: ô messager d'Allah, puisque tu nous invites à nous faire justice, eh bien sache que le jour de la bataille de Badr, tu as voulu aligner les rangs avec ton bâton, et avec ce bâton dont tu te sers pour les chameaux, tu m'as donné un coup sur ma poitrine, et tu m'as causé une vive douleur. Voilà le tort que tu as envers moi, ô messager d'Allah. » Le prophète présenta son corps et lui dit : « Voici mon corps, frappe si tu veux me frapper. » Et Ukasha répondit : « Oui, je le veux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya chercher son bâton qui était dans la maison de Fatima, mais il demanda de ne pas révéler l'usage qu'il voulait en faire pour ne pas attrister sa fille, radiyallahu anha. Rendez-vous compte, mes frères, cet homme qui se tient debout devant la foule, le prophète de l'humanité, le chef de tous ces gens, offrant son corps malade, souffrant et mourant à la justice du talion et au coup de la vengeance. Toute l'assistance se tourna vers Ukasha, radiyallahu anhu, et lui dirent : « N'as-tu pas honte et ne crains-tu pas Allah de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Pourquoi ne pas abandonner cette réparation ? » Le prophète leur répondit : « Ne lui dites rien, il ne réclame que son droit. » Uthman radiyallahu anhu lui dit : « Ô Ukasha, vends-moi ton droit pour 100 chameaux. » Abdurrahman fit la même offre et chacun des compagnons lui parla, mais en vain. Quand le bâton arriva, Ali se leva et dit : « Ô Ukasha, le prophète est faible et malade, il ne pourra pas supporter un coup. Au lieu de le frapper une fois, frappe-moi 100 fois, autant que tu veux et aussi fort que tu veux. » Tous les autres s'offrirent également en disant : « Laisse le prophète, frappe sur nous. » Mais Ukasha ne se laissa pas fléchir. Il prit le bâton de la main de Bilal, radiyallahu anhuma, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit : « Approche-toi, Ukasha. Maintenant frappe, mais pas trop fort, car je suis faible et je ne pourrais supporter un coup trop fort. » Toute l'assemblée tremblait et pleurait dans une atmosphère insupportable. Ukasha rajouta : « Messager d'Allah, cette nuit-là, j'étais découvert. Alors que toi, aujourd'hui, tu es vêtu d'une robe et d'un manteau. Comment pourrait-il y avoir réparation ? Découvre-toi, messager d'Allah. » Et bien que très malade et très fiévreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dépouilla de ses affaires. Les pleurs se faisaient entendre dans la mosquée de plus en plus. Alors Ukasha leva la main et jeta le fouet. Il se précipita sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pressa son visage contre la poitrine du prophète en pleurant, en disant : « Prophète d'Allah, mon corps contre ton corps, mon corps contre ton corps. » Les larmes coulèrent des yeux du prophète. Tous les assistants pleurèrent de sorte que la mosquée fut couverte de larmes. Ukasha resta quelques instants comme ça, sa tête contre la poitrine du prophète. Et le prophète lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Il dit : « Ô prophète, je crains comme tout le monde que ce soit le dernier jour qu'on te voit vivant. J'ai voulu, le jour où on te dit adieu, rapprocher mon visage de ton corps, en espérant obtenir par là que Dieu préserve mon corps du feu de l'enfer. » Le prophète lui répondit : « Il est préservé, il est préservé, il est préservé. » 2 jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maladie s'aggrave intensément. Il ordonne néanmoins aux croyants l'un de ses derniers messages. Il leur dit : « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Car en effet, Allah a accordé sa bénédiction à un homme qui a entendu ce que j'ai dit, l'a appris, puis l'a transmis comme il l'a entendu. Et il se peut que celui à qui on l'a transmis comprenne mieux que celui qui le rapporte. Un jour avant sa mort, il a voulu se débarrasser de tous ses biens. Il a voulu donner en aumône tout ce qui lui restait comme argent. Il ne lui restait en effet que 7 malheureux dinars. 7. Il avait l'ensemble de la communauté sous ses pieds, sous son autorité. Le Seigneur lui avait proposé des montagnes d'or et d'argent et il avait refusé. Et le voilà, la veille de sa mort, avec comme seule possession 7 dinars. Alors, il donna les 7 dinars en aumône. Voilà ce prophète, mes frères, à qui l'ange des montagnes proposa que Allah change une montagne en or pour lui. Et le voilà qui répond : « Non, je préfère manger un jour, avoir faim le lendemain, et cela jusqu'à ce que je rencontre mon Seigneur le Très-Haut. » Il est mort en effet, alors que sa maison ne dépassait pas les 3 mètres de long. Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, a raconté : « Je suis entré dans la chambre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En levant mon bras, j'ai pu toucher le plafond avec ma main. et ce plafond était fait de feuilles de palmier. Quant à son lit, mes frères, Aïcha radiallahu anha a indiqué que le matelas sur lequel le messager d'Allah dormait était d'une seule place et il était fait de cuir rembourré avec des fibres tressées de palmier. Et si la chaleur devenait insupportable, il jetait de l'eau sur sa couche et priait dessus. Et son matelas était si rude, mes frères, à un tel point que lorsqu'il se réveillait, il était marqué sur le côté. Dans sa maison, il ne restait que 30 mesures d'orge. Elles étaient contenues dans un tissu qui était suspendu au plafond. Il n'a laissé aucun héritage matériel. D'ailleurs, il dit lui-même, « Nous, les prophètes, ne laissons pas d'héritage. Tout ce que nous laissons part en aumône. » Dans ses derniers instants, il était accompagné par son épouse, Aïcha radiallahu anha. Ils évoquaient tous les deux le Très-Haut. Lui faisait des invocations et elle lisait le Coran pour le soulager. En faisant cela, elle prenait sa main à lui. Pourquoi ? Elle le caressait avec sa propre main à lui, car elle savait que sa main à lui avait plus de bénédiction et de noblesse que sa main à elle. Abdurrahman, le frère de Aïcha radiallahu anha, entre dans la pièce avec son bâton de siwak dans la bouche. Et le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce siwak montre clairement qu'il voulait du siwak. Aïcha vit sur quoi le regard du prophète était tombé et elle retira le siwak de la bouche de son frère et le donna au prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères, on va s'arrêter là parce que le shir arrive. Inch'Allah, on va continuer l'histoire de la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine prochaine si Allah le veut. Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.